Bonjour à chacun, bonjour à ceux qui étaient là hier avec nous, bonjour à ceux qui nous ont rejoints ce matin. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin encore. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, on a parlé des visions du monde. Alors, en deux mots, pour faire simple, une vision du monde, c'est quoi ? Une vision du monde, c'est un cadre de référence que chacun possède de manière consciente ou inconsciente, et qui va nous aider à voir le monde d'une certaine manière, à le comprendre et aussi à agir en conséquence. Et hier, on a passé la première partie à détailler un peu plus ce qu'était la vision biblique du monde, donc la vision du monde telle que la Bible nous le décrit. Mais on a aussi parlé d'autres visions du monde. Par exemple, on a abordé ce qu'on appelle le naturalisme, une vision du monde dans lequel seule la matière existe et rien en dehors de la matière n'existe. On a abordé le postmodernisme où on a vu que tout était relatif, qu'il n'y avait pas d'absolu moral ni de vérité certaine. On a vu aussi le pluralisme qui dit que toutes les religions se valent et toutes mènent au salut, que rien n'est supérieur à l'autre. Là encore, pas de vérité absolue. Petite parenthèse, j'ai oublié de le signaler hier soir, ce dont on a parlé, en particulier les différentes visions du monde, sur le site toutpoursagloire.com dont John a parlé, on a une série qui reprend les différentes visions du monde. Donc si ça vous intéresse, vous avez envie d'en savoir un peu plus ou de creuser, vous pouvez aller voir là-bas. On s'est aussi demandé comment, face à toutes ces visions du monde, on pouvait les évaluer. Comment on peut savoir lesquelles sont valides, s'il y en a plusieurs, et surtout, comment on peut dialoguer avec ceux qui nous entourent et qui ont une vision du monde différente de la nôtre. Alors pour ça, on a vu plusieurs outils, je les rappelle vite fait. On a vu la cohérence, et on se demande, est-ce que cette vision du monde est cohérente en elle-même, ou est-ce qu'il y a à l'intérieur des contradictions ? Est-ce qu'elle est cohérente aussi avec le monde qui nous entoure, ou alors elle ne décrit pas la réalité dans laquelle nous vivons. On a vu aussi que un des outils qu'on avait, c'était de savoir si cette vision du monde était pratique. Est-ce qu'on peut vraiment vivre en accord avec cette vision du monde ? Et on a vu la question de l'espoir. Est-ce que cette vision du monde me donne de l'espoir ? Est-ce que cette vision du monde me donne de l'espoir pour aujourd'hui, mais aussi pour demain ? Est-ce que cette vision du monde me renseigne sur le problème de l'homme ? Et est-ce qu'elle y apporte une solution réelle et effective. Hier, j'ai dit que j'avais parlé de ces trois outils, mais qu'en fait, il y en avait beaucoup d'autres. Et l'auteur avec lequel à partir duquel j'ai travaillé sur la question des visions du monde, en a développé 8. Et sur les 8, il y en a un qui m'intéresse particulièrement ce matin, c'est la question de la satisfaction et de l'épanouissement. Une question qu'on peut poser à ceux qui nous entourent, c'est est-ce que ta vision du monde t'apporte satisfaction ? Est-ce que tu arrives à t'épanouir avec ce que tu crois et par ce que tu vis ? C'est d'ailleurs, quand on parle avec ceux qui nous entourent, quelque chose qui revient fréquemment. On entend souvent le refrain « De toute façon, si ça te rend heureux, c'est le principal. » Mais on peut se demander, est-ce que vraiment être heureux, c'est le principal ? On peut se demander, mais est-ce que être heureux, c'est mauvais ? On peut se demander, mais est-ce que être heureux, vouloir être heureux, c'est nouveau ? Et je voudrais citer un philosophe et théologien du XVIIe siècle, Pascal, qui le disait déjà à son époque. Je cite, « Tous les hommes désirent être heureux. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que l'un va à la guerre et l'autre n'y va pas, c'est ce même désir qui est dans les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions des hommes. » Pascal nous dit ici que tout ce que nous le faisons parce que nous voulons être heureux. Et ce que nous voulons, nous cherchons à l'obtenir par tous les moyens possibles. un autre philosophe plus contemporain, William Scheller, le dit en d'autres mots. Je cite « Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. » Alors pour les moins de 40 ans, William Scheller, c'est un chanteur. Et on entend souvent, on a vu que c'est pas nouveau, mais on entend souvent de nos jours encore cette recherche du bonheur. Ça fait l'objet de nombreuses chansons, de titres de magazines, d'articles de blog. Ça fait l'objet aussi de beaucoup de recettes. 8 moyens scientifiques d'être heureux. Comment être heureux cet été ? 10 raisons de commencer à être heureux maintenant. Et je suis sûr que vous êtes déjà passé devant ce genre d'article. Peut-être même que vous les avez lus. Mais si vous les avez lus, vous avez vu qu'ils sont creux, parce qu'ils ne reflètent pas la réalité. Et que bien souvent, ce sont des raccourcis qui mènent tout droit dans le fossé. Et ce matin, j'aimerais prendre un texte avec vous dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors vous pouvez le trouver après les psaumes, au milieu de la Bible, après les proverbes, il y a le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3. Et je lirai les versets 1 à 15. Ecclésiaste 3, 1 à 15. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Et j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a été et ce qui sera déjà et ce qui a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ce texte est tiré du livre de l'Ecclésiaste, un de mes livres préférés, que je considère comme l'un des plus beaux de la Bible, mais aussi un des plus compliqués à saisir. Et une des raisons pour lesquelles on a du mal à le comprendre, c'est que ce genre de littérature, littérature de sagesse, est très éloigné du genre de littérature qu'on connaît aujourd'hui. Et une lecture un peu rapide pourrait nous faire passer à côté du vrai sens du livre. Aussi, on entend souvent que l'auteur du livre de l'Ecclésiaste est pessimiste. Je crois qu'il est plutôt réaliste. Il voit la vie en face, sans fard, sans maquillage. Il voit le monde tel qu'il est. Et un des principes importants pour comprendre ce livre, comme pour comprendre l'ensemble de la Bible, comme pour comprendre tout produit culturel ou pour comprendre quoi que ce soit dans la vie, c'est le contexte. Et le livre de l'Ecclésiaste, c'est un peu comme un tableau de Van Gogh ou de Monet. Je ne sais pas si vous voyez ce style de tableau. De près, on ne voit que des gros coups de pinceau, on ne voit que des traits. Il faut prendre un peu de recul pour voir l'image en entier et pour comprendre le tableau. Et les premiers versets, les versets 1 à 8, qui sont assez connus, sont censés décrire l'ensemble de l'activité humaine. Ce n'est pas une prescription, l'auteur ne nous dit pas « il faut faire cela », mais l'auteur nous décrit simplement le monde tel qu'il est. Et cette liste, elle nous montre des choses qu'on a tous ressenties et tous vécues. Que dans la vie, il y a des bons moments, mais il y a aussi des mauvais moments, et que ces bons et ces mauvais moments se succèdent les uns après les autres. Nous ne maîtrisons pas ce qui nous arrive. Et parfois, on pense au temps comme à quelqu'un qui nous inflige des moments que l'on ne maîtrise pas. Et souvent, les choses arrivent au moment où nous n'avons pas choisi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent vrai des épreuves. Elles arrivent toujours au moment où on n'a pas prévu. Et ce que dit l'auteur de l'Ecclésiaste ici, c'est que la vie s'enchaîne. Et on ne peut jamais savoir ce qui vient après. On ne contrôle pas les saisons de notre vie. Et dans un sens, ça peut nous réconforter. On peut se dire qu'après une épreuve, viendra un bon moment. Après la pluie, vient le beau temps. Mais cela veut aussi dire que les épreuves peuvent nous toucher à n'importe quel moment de notre vie. Le verset suivant, le verset 9, souligne cette réalité. Et elle demande, et si tout s'enchaîne comme ça, si le moment de notre vie s'enchaîne les uns après les autres, sans qu'on puisse les contrôler, les mauvais après les bons après les mauvais, comment peut-on espérer retirer quelque chose de notre travail? Et ce verset montre ce que l'Ecclésiaste souligne peut-être mieux que tous les autres livres de la Bible, que la vie est pleine de frustration. Et c'est ce pourquoi ces livres de poésie et de sagesse nous parlent autant. C'est parce qu'elles nous montrent la vie telle qu'elle est, parfois dure, parfois belle, très souvent frustrante. Et c'est un des thèmes qui revient avec ces mots célèbres dans le livre de l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités ». Ça marche bien. Alors, que voulait dire l'auteur quand il disait cela? Est-ce qu'il voulait dire « rien ne vaut le coup » ou « tout ne vaut rien » Mais si on est attentif à l'ensemble du livre, on remarque que ça ne peut pas être l'interprétation de « tout est vanité ». Pour deux raisons au moins. D'une part, l'auteur nous montre que certaines choses dans la vie valent mieux que d'autres. Et l'auteur nous montre aussi que même dans cette vie frustrante, on peut trouver du plaisir dans les choses simples de la vie. Manger, boire, travailler, se réjouir de ce que Dieu nous donne. En fait, ce que l'auteur veut nous dire en soulignant la vanité, c'est que rien ne pourra nous satisfaire pleinement sur cette terre. En fait, il veut nous enlever l'illusion qu'on puisse trouver notre bonheur dans ces petites choses. Ou comme il dit, sous le soleil. Et s'il peut affirmer cela, c'est que l'auteur de l'Ecclésiaste a eu beaucoup d'expériences. Il a tenté beaucoup de choses. Il a cherché le bonheur partout, comme nous disait Pascal tout à l'heure. Au début du livre, l'Ecclésiaste liste la liste des choses qu'il a expérimenté, qu'il a essayé pour trouver le bonheur. Il dit qu'il a cherché dans la sagesse, dans la connaissance, dans la folie, dans la stupidité en vain, dans l'ivresse, dans les grands projets, dans les possessions et les richesses, dans la sexualité et le divertissement en vain. Et quand on lit cette liste, on est frappé et forcé de constater qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En 2016, l'homme cherche toujours à trouver son bonheur dans toutes ces choses. On cherche à trouver son bonheur dans le divertissement, le sexe, les richesses, la connaissance, la bonne conduite, la carrière, l'ivresse, etc. Et ceux qui ont essayé ces choses pourront vous le dire. Rien de tout cela ne peut apporter le vrai bonheur. Ce à quoi on aspire profondément ne peut pas se trouver dans ces choses-là. En fait, c'est comme trouver des verres d'eau ici et là, mais on est dans un désert et on aspire tous à un oasis. Et cette vanité, c'est le cri de frustration que chacun de nous a poussé un jour. On a tous eu l'impression, un jour ou l'autre, que cette vie n'en valait pas la peine, que le jeu n'en valait pas la chandelle, qu'à la fin, tout passera de toute façon, qu'on ne pourra rien emporter et qu'il y a de l'injustice sur terre. Alors, à quoi bon ? Et pourtant, il y a des choses, nous dit l'Ecclésiaste, et dans nos vies, il y a des choses qui peuvent nous apporter du bonheur, même s'il est relatif. Et c'est ce qu'on lit au verset 12 et 13. Malgré tout, malgré la frustration, on peut trouver du bonheur, on peut se réjouir de ce que Dieu nous donne dans cette vie, en sachant et en reconnaissant que tout vient de lui. Et cette invitation à profiter des bonheurs de la vie, c'est comme un refrain dans le livre de l'Ecclésiaste. Si vous lisez tout le livre d'un coup, vous voyez que de temps en temps, il y a comme un refrain qui revient et qui nous appelle à profiter des petits plaisirs de la vie. Et dans ce livre, comme dans la vie et comme dans la Bible, on retrouve une tension. Une tension entre ce constat de vanité, par exemple, et cet appel à profiter de la vie. Mais si on replace tout ça dans le contexte du livre et de la Bible en général, du livre quand il parle de la vanité, mais aussi quand il parle de la crainte de Dieu, il en parle à la fin de ce passage, il en parle aussi à la fin du livre. Il dit le plus important, c'est la crainte de Dieu. Et tout ce qu'il vient de nous dire dans le livre, il faut le regarder à travers ces lunettes de la crainte de Dieu. Et avoir cette tension et vivre cette tension de manière saine, ça peut nous éviter de tomber dans deux extrêmes. Le premier extrême, ce serait de dire qu'on ne peut pas profiter des petits plaisirs de la vie. C'est que quelque chose que l'on retrouve dans l'ascétisme, dans les gens qui refusent de trouver du bonheur dans le manger, le boire, le travail, et s'en privent. Mais il y a plusieurs problèmes à cette approche. D'abord, elle va à l'encontre de la réalité. Nous aimons ce qui nous procure du plaisir et nous constatons dans notre vie que certaines choses nous procurent du plaisir. On peut se demander si elles sont légitimes ou pas, mais en tout cas, on doit constater que certaines choses nous apportent du plaisir. Les relations avec nos amis, avec notre famille, avec notre conjoint, un bon repas, une bonne sieste, une belle balade en forêt, une belle fête, des bonbons à la réglisse, des crêpes au Nutella. J'en passe et des meilleurs. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous procurent du plaisir et qui semblent répondre à un besoin que l'on a. Deuxième problème avec cette approche qui rejette tous les petits plaisirs, c'est qu'on retrouve cette vision dualiste de la vie dont on a parlé hier. Le dualisme, c'est de séparer les choses en deux. Et une vision dualiste, c'est de séparer la vie en deux. Et d'un côté, d'avoir les choses spirituelles, et de l'autre, des choses non spirituelles. Souvent, on schématise, on a d'un côté les choses immatérielles, spirituelles, vers lesquelles on doit s'élever, et de l'autre côté, les choses matérielles, que l'on regarde comme viles, mauvaises, à rejeter. Mais on a vu hier que la vision biblique du monde est une vision globale, que Dieu a créé un monde physique, que nous avons un corps physique, et qu'à la résurrection, nous aurons des corps physiques dans un monde physique. La matière n'est pas mauvaise, nous dit la Bible. Ce qui est mauvais, c'est le péché. Enfin, la Bible rejette de manière catégorique et textuelle cette approche ascétique de la vie. Si on regarde dans la lettre dans la première lettre que Paul écrit à Timothée, au chapitre 4, Paul condamne farouchement ceux qui venaient dans les églises, ces faux docteurs. Il va même jusqu'à dire que ce sont des docteurs de démons, qui ont des doctrines de démons. Et qu'est-ce qu'enseignaient ces gens ? Tout simplement que les chrétiens devaient s'abstenir de certains aliments, parce qu'ils n'étaient pas spirituels. Que les chrétiens devaient s'abstenir du mariage, sous-entendu de la sexualité dans le mariage. Et Paul les condamne fermement en disant « Cette vision-là n'est pas la vision de l'Évangile, n'est pas la vision du monde créé par Dieu. » Au contraire, la Bible nous encourage à profiter de la vie en reconnaissant et en remerciant Dieu qui nous les a donnés. Et je vous lis un passage de Jean Calvin, le réformateur, qui nous dit « Que notre principe soit le suivant. L'usage des dons de Dieu créé pour notre bien est légitime s'il est conforme à l'intention du Créateur. Ainsi, si nous considérons dans quel but Dieu a créé les aliments, ce n'est pas seulement pour pourvoir à nos besoins, mais aussi pour notre plaisir, d'où les crêpes au Nutella. » C'est pas Calvin qui a dit ça, c'est moi qui l'ajoute. L'Écriture souligne la bonté de Dieu. Tout ce qu'il a fait est pour le bien de l'homme. Les qualités naturelles de chaque chose nous montrent comment nous pouvons les apprécier, dans quel but et jusqu'à quel point. Pouvons-nous penser que notre Seigneur aurait donné aux fleurs une telle beauté pour l'agrément de nos yeux s'il n'était pas permis d'éprouver du plaisir en les regardant ? Dieu ne nous a-t-il pas donné beaucoup de choses que nous pouvons apprécier sans en avoir vraiment besoin ? Jean Calvin nous dit ici, non seulement Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin, mais encore plus pour notre plaisir. Il y a d'un côté cet extrême donc de rejeter les choses bonnes que Dieu nous a données en les déclarant mauvaises, mais il y a un autre extrême à éviter. C'est celui de vouloir trouver notre bonheur absolu dans ces petits bonheurs. Rien sur cette terre ne pourra nous satisfaire complètement. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit en parlant de vanité et de vanité. Et c'est ce que nous avons tous expérimenté. Rien de ce que nous possédons ne peut nous combler, parce que dès qu'on l'a, on désire autre chose. Rien dans nos relations peut nous combler parfaitement, parce qu'un jour ou l'autre, on sera déçu. La personne va nous décevoir, la personne va nous trahir, ou nous-mêmes, nous serons à l'origine d'une rupture dans la relation. Et aucune de nos relations terrestres ne peut entièrement nous apporter le bonheur. Petite parenthèse, je vous conseille très vivement le livre de Tim Keller qui s'appelle « Les idoles du cœur » et qui montre comment, à cause du péché, notre cœur est enclin naturellement à faire de ces petits bonheurs des idoles. Et cette recherche du bonheur par ces moyens que Dieu nous donne, on les retrouve dans les films, dans les chansons, dans les poésies et dans les expériences de ceux qui nous entourent. Quand on parle à nos collègues, à nos amis, à notre famille, on se rend compte que tout le monde cherche à être heureux. Et que, à chaque fois, ils cherchent par ces petits moyens l'absolu bonheur que seul Dieu peut nous offrir. Et on aspire tous à quelque chose, on aspire tous à la chose qui nous rendra vraiment heureux, pour de vrai et pour de bon. Et on sait que cela doit exister puisqu'on retrouve cette envie et ce besoin dans le corps, dans le cœur de chaque homme, partout sur la terre. Mais ces plaisirs, ces choses éphémères que nous expérimentons, ne sont pas le vrai bonheur. Et je cite C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, peut-être vous l'avez lu, peut-être vous avez vu le film. Il dit « Elles ne sont pas la chose elle-même. Elles ne sont que le parfum d'une fleur que nous n'avons pas trouvée. L'écho d'une mélodie que nous n'avons pas entendue. les nouvelles d'un pays que nous n'avons encore jamais visité. Mais le même auteur souligne encore une difficulté. Il dit que peut-être finalement, ce n'est pas parce que nous attendons trop de ces choses que nous sommes déçus, mais parce que nous attendons pas assez. On se satisfait trop facilement de ces choses banales. On se satisfait trop facilement de toutes ces choses passagères. Et il dit, nous sommes des créatures tièdes qui nous laissons abêtir par la boisson, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Nous sommes beaucoup trop faciles à satisfaire, comme cet enfant qui est mieux resté à jouer au pâté dans le bidonville, parce que l'offre d'un dimanche à la plage ne représente absolument rien pour lui. Mais chacun, alors qu'on a cherché notre bonheur dans ces petites choses, fait le constat qu'après un lendemain de fête, après une énième conquête, après un voyage, tous ceux qui nous racontent cette poursuite du bonheur se rendent à l'évidence. Nous sommes faits pour plus que cela. Quelque chose en nous aspire à une fête qui ne s'arrête jamais, à un endroit où l'on se sent vraiment chez soi, à une relation qui nous décevra jamais. Et cette réalité-là, cette chose à laquelle nous aspirons, cette chose qui nous dépasse, l'Ecclésiaste la montre du doigt au verset 11. Il dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, la pensée que quelque chose est plus grand que lui, que quelque chose le dépasse, qu'on est fait pour plus que cela. Et la Bible nous dit que si nous aspirons à plus que cela, c'est parce que nous avons été créés pour plus que cela. L'auteur de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a des réalités qui dépassent celles qui nous a décrites au verset 1 à 8. Et peut-être si on arrivait, comme l'Ecclésiaste, à cette conclusion que le bonheur ne peut pas se trouver sur terre, peut-être qu'il faut le chercher ailleurs, au-dessus du soleil. La Bible, on l'a vu hier, où on l'a rappelé, la Bible commence dans un jardin et finit dans une ville. Et dans ce début, et dans cette éternité future, la Bible décrit une situation où l'homme est pleinement heureux, où l'homme est pleinement épanoui, l'homme est pleinement satisfait. Et ce qui fait son bonheur, nous dit la parole de Dieu, c'est que l'homme est en relation directe avec Dieu, qu'il est dans sa présence. La Bible nous dit que l'homme et la femme ont été créés par Dieu et pour Dieu. Elle nous dit que la place normale de l'homme est auprès de Dieu. Elle nous dit que le vrai bonheur ne se trouve qu'auprès de lui. Et que tant que l'homme est séparé de Dieu, il pourra employer tous les moyens qu'il veut pour trouver son bonheur. Il n'y arrivera jamais parce qu'il a été créé pour plus que ça. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut faire notre bonheur, et c'est retrouver la place pour laquelle nous avons été créés. Dernière citation de ce matin, un théologien, Jonathan Edwards, qui a dit « Dieu est le bien suprême de toute créature raisonnable. » Et la joie que nous trouvons en lui est le seul bonheur par lequel nos âmes peuvent être vraiment satisfaites. Frères, mères, maris et femmes, les enfants ou les amis ne sont que des ombres. Mais Dieu est la substance de notre joie. Ce ne sont que des rayons, mais Dieu en est le soleil. Ce ne sont que des courants, mais Dieu est la fontaine. Ce ne sont que des gouttes, mais Dieu est l'océan. Et tout ce qui fait notre joie ici, nous rappelle Jonathan Edwards, tout ce qui fait notre joie, ce n'est qu'un aperçu, un dérivé de notre vraie joie. Tout ce qui fait notre joie ici, les petits plaisirs, même s'ils sont vrais, ne sont qu'un reflet et quelque chose qui doit nous amener vers la source du bonheur, Dieu lui-même. La Bible nous dit que le vrai bonheur ne se trouve que lorsqu'on a retrouvé la place que nous avions auprès de lui, que lorsque nous avons goûté à la beauté de sa grâce comme on l'a chanté tout à l'heure. C'est cette grâce, c'est cet amour, c'est cette place auprès de lui qui nous fait nous sentir vraiment heureux. Et toute la Bible, du début à la fin, nous raconte comment Dieu lui-même a entrepris un plan, une mission pour retrouver l'homme, pour lui permettre de renouer la relation que l'homme a brisée. Toute la Bible nous dépeint ce que Dieu a fait, ce qu'il a entrepris pour que nous retrouvions cette relation privilégiée avec lui. Et c'est ce dont nous nous rappelons dimanche après dimanche, quand nous prenons la scène comme tout à l'heure. Nous rappelons ce que Dieu a fait, ce qu'il a sacrifié, ce qu'il avait de meilleur, pour que nous retrouvions notre place auprès de lui et notre vrai bonheur. Et un des critères dont on a parlé tout à l'heure, hier, c'est le critère de l'espoir. Et aussi le critère de la beauté. Et j'ai partagé hier comment, en parlant avec des gens que je venais juste de rencontrer ou avec des amis, comment presque à chaque fois ils étaient frappés par la beauté de l'Évangile, comment ils étaient frappés par l'espoir que nous donne la Bible. Et c'est ça le centre de l'Évangile, c'est ça le centre de cette bonne nouvelle que nous voulons annoncer à chacun. C'est comment on peut être réconcilié par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comment nous pouvons être réconciliés avec Dieu, retrouver le bonheur que nous avions auprès de lui. Si je résume ce qu'on a vu ce matin, on a vu d'une part que tous les hommes recherchent le bonheur, que nous pouvons trouver un certain bonheur dans les petits plaisirs de la vie, qui sont des cadeaux de Dieu, mais que le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Et en fait, la Bible ne nous présente que deux solutions. Soit on fait de Dieu la source de notre joie, soit on fait de la source de notre joie notre Dieu. Soit on fait de Dieu la source de notre joie, soit on fait de la source de notre joie notre Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que normalement, les chrétiens devraient être les plus heureux des hommes. Quand quelqu'un nous rencontre, il devrait être frappé par notre joie. Il devrait se demander, mais qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui te permet d'être heureux dans ce que tu traverses? Qu'est-ce qui te permet de profiter de toutes ces petites choses de la vie alors que tu traverses cette épreuve? Qu'est-ce qui te permet d'être toujours joyeux comme nous demande l'Écriture? Et c'est un appel que je nous lance ce matin, un défi de faire de Dieu la source de notre joie. Et quand nous voyons, les gens remarquent cette joie. Quand voyant la manière dont on peut profiter des petites choses de la vie, les gens voient qu'on reconnaît que cela vient de Dieu, qu'on y prend plaisir, mais que ce n'est que le reflet, ce n'est que quelque chose qui pointe vers Dieu. Peut-être ce matin, certains d'entre vous sont à la recherche de ce bonheur. Peut-être que vous avez essayé de trouver le bonheur partout, un peu comme l'Ecclésiaste, que vous avez enchaîné les expériences, que vous avez essayé de trouver ici et là ce qui vous satisfera vraiment. Mais peut-être que vous êtes fatigué par cette recherche parce que vous êtes rendu compte que rien ne pouvait vous satisfaire, qu'expérience après expérience, vous vous retrouviez dans la même situation de désespoir, parce que vous savez que vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez vraiment. Peut-être que vous n'avez trouvé, comme on l'a dit tout à l'heure, que des vers d'eau dans un désert. La Bible nous dit qu'on a été créé pour être heureux. Et c'est normal de chercher à être heureux parce qu'on a été créé pour ça. Mais elle nous rappelle aussi comment on ne peut l'être vraiment. Et laissez-moi supposer, si c'est votre cas, si vous avez cherché le bonheur par toutes ces expériences et que vous ne l'avez jamais trouvé, permettez-moi de supposer que peut-être vous l'avez cherché au mauvais endroit. Et si c'est le cas, j'aimerais vous laisser avec ces paroles de Jésus dans Jean 6, qui dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Peut-être que d'autres, au contraire, connaissent Dieu, mais qu'ils ont toujours vécu dans une espèce d'austérité, ou dans une vie chrétienne sans joie, ou peut-être que cette joie, vous l'avez perdue. Peut-être même que vous aviez cette idée que c'est mal de vouloir profiter des petits plaisirs de la vie. Peut-être que certains ont grandi avec cette vision dualiste séparée en deux de la vie, que les choses matérielles sont à rejeter, que c'est un mal nécessaire. Ou alors, peut-être que vous vous sentiez coupable lorsque vous éprouviez de la joie en mangeant une crêpe au Nutella et que vous n'osiez pas mettre de chantilly dedans. Mais on a vu ce matin que Dieu est la fontaine et la source de tous les biens. Que toutes ces choses qui peuvent nous réjouir, même si elles ne nous réjouissent pas complètement, elles nous réjouissent vraiment. Et se priver de ces choses, c'est se priver de la grâce de Dieu. Non seulement la grâce de Dieu nous sauve, non seulement la grâce de Dieu nous transforme, mais la grâce de Dieu nous comble au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et si nous devons craindre Dieu, comme nous appelle l'Ecclésiaste dans son livre, nous devons aussi profiter de la vie qu'il nous donne, ici et maintenant, en nous rappelant que tout vient de lui et que tout est pour lui. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, un guide sûr pour notre foi et notre vie, une boussole pour nous orienter dans ce que nous devons croire, mais aussi dans la manière dont nous devons vivre. Et c'est vrai, Seigneur, comme l'auteur de l'Ecclésiaste, nous rendons compte que notre vie est vanité, que rien ne pourra nous satisfaire vraiment. Mais Seigneur, on veut te remercier, on veut te bénir pour tous ces petits plaisirs de la vie que tu nous donnes. On veut te bénir parce que nous savons que le vrai bonheur se trouve en toi. On veut te bénir parce que tu as envoyé Jésus pour nous réconcilier avec toi, pour que nous retrouvions notre vraie place, pour que nous retrouvions notre vrai bonheur. Merci Seigneur parce que tu nous affirmes. Tu proclames dans ta parole que si nous venons à toi, nous n'aurons plus jamais soif, nous n'aurons plus jamais faim. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Et merci pour ces petits bonheurs qui nous rappellent que tu es bon et qui pointent tous vers toi, la source de la bonté, la source de la grâce et la source de la joie. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à en profiter vraiment. Aide-nous à reconnaître que tout ce que tu nous donnes est bon et vient de toi. Aide-nous à trouver notre plaisir en toi. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous le cherchons dans les idoles, quand nous transformons ce que tu nous donnes de bien et nous en faisons notre bien ultime. Seigneur, révèle-nous notre péché. Aide-nous à nous repentir lorsque c'est le cas. Aide-nous à nous détourner de ces plaisirs que nous avons érigés en idoles, pour retrouver le vrai plaisir en toi. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à profiter de ce que tu nous donnes en te glorifiant. Aide-nous à tout faire pour ta gloire. Que nous mangions, que nous bouvions, que nous fassions toute autre chose, que nous travaillions, que nous prenions un temps de repos avec les enfants. Quelque autre chose que nous fassions, Seigneur, aide-nous à le faire pour ta gloire, à te bénir pour cela. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.